Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
Stevie, ça va? J'ai plus d'air dans les poumons. Est-ce que t'as trouvé quelque chose là-dedans? C'est un crâne d'homme.
Il y a des forces sur Terre.
Envoie-le nous! Pas question, mon vieux, il est à moi.
Trop caché pour être décelé. Des complots trop vastes.
Hey, Stevie!
Pour être découvert.
Ça va?
Hé, les mecs, ils sont le camp!
Mais le 21 octobre, la vérité sera ici.
Scully. Cours!
La situation est grave.
J'ai besoin de ton aide.
Un homme seul ne peut pas combattre le futur.
Mulder, on n'a pas le temps!
Il a subi quelle mutation? Ne faites confiance à personne, monsieur Mulder.
On n'aurait jamais pu deviner la vérité. Jamais pu la prévoir.
On est thématique ce soir pour débuter cette première émission de Radio X-Files. Quoi de mieux que d'avoir la bande-annonce du film éponyme X-Files. Bonsoir Christian.
Bonsoir Camille.
T'as passé un bon week-end?
Oui, oui, absolument.
J'arrête pas de penser.
Malgré que ça se refroidit, on sent
ben
que
oui.
L'automne est là. Bon.
Mais je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai comme un petit regain ces temps-ci. Là, j'ai goût de faire de la popote. Là, je suis comme en mode cocooning un peu plus. Ça doit être les couleurs dans les arbres qui me donnent cette espèce de joie de vivre-là, plus que de dire « Ah, oh, il commence, c'est humide, c'est froid. »
Oui, puis c'est vrai aussi qu'on perd de la luminosité.
Oui.
Enfin, généralement, c'est souvent associé avec une perte d'énergie. Donc, tu vas fonctionner contrairement aux autres.
Ça doit être aussi parce que j'ai quelque chose de super qui s'en vient. Je m'en vais prendre un peu de chaleur dans les prochaines semaines aussi.
Ah,
ça aide. J'ai pensé à toi en fin de semaine, Christian, parce que non, j'ai pas écouté Les Tueurs de l'Occulte, mais j'ai commencé Le Diable en Ohio. C'est
oui.
Une série que tu nous avais recommandée ici. C'est
oui.
Très troublant. Et parlant
oui.
De troublant, on s'est promis de le faire cette semaine parce que toute la planète, Netflix et Facebook, c'est le côté obscur des réseaux sociaux. On est pratiquement en train de se faire spoiler la série sur Jeffrey Dahmer. On
oui.
Se fait une mission cette semaine d'en parler parce que tout le monde semble écouter ça ces temps-ci. C'est numéro un dans une soixantaine de pays et ça a l'air, ma foi, assez troublant selon les images.
Ouais, écoute, j'en dirai pas plus, mais je te dirai que j'ai écouté sur Netflix les 10 épisodes.
Déjà?
Une série en 10 épisodes. Donc, ce week-end, je me suis dit, tiens, je vais regarder la série de Jeffrey Dahmer. Donc, j'en dirai pas davantage, mais jeudi, comme on a des jeudis thématiques autour des
ben
crimes
oui.
Occultes, tout ça, et c'est vrai que dans le cas de Jeffrey Dahmer, il y avait un petit aspect presque surnaturel dans les crimes de Jeffrey Dahmer. Donc, j'en parlerai, je donnerai mon opinion sur la série, tout ça. Et puis, écoute, on pourra plus longuement en discuter.
Et on donne un ultimatum aux auditeurs pour ce spoiler alert parce que jeudi, on va s'en donner à cœur joie. Alors, vous avez jusqu'à jeudi pour écouter les épisodes. Mais ça va être la thématique crime, tueur en série, comme on fait le
ouais.
Jeudi. Ce soir, c'est la thématique OVNI. Tu nous amènes où, Christian?
Oui. La semaine dernière, j'étais peut-être trop ambitieux. Hein? La semaine dernière, on avait annoncé dans l'émission, j'ai dit, je vais te parler d'un type qui s'appelle Paul Benevitz et je vais te parler du MJ-12. Malheureusement, on a eu le temps que de parler de Paul Benevitz. Dershowitz en mettant de côté le dossier MJ-12, qui est un dossier très important dans le folklore ufologique. Donc, je me suis dit cette semaine, je vais revenir là-dessus parce que des gens m'ont écrit en me disant « Ah, vous avez pas eu le temps de parler d'MJ-12. » Bon, on va en parler. Pourquoi on a fait entendre la bande-annonce de la série X-Files? Ben, c'est un peu comme la semaine dernière. J'avais longuement pris quelques minutes pour expliquer que dans l'univers des ovnis, le discours des ufologues est souvent de dire les autorités nous cachent la vérité sur les ovnis. Bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'ai même donné des exemples. Il est possible que ce soit vrai. Et si c'est vrai, ça ne veut pas nécessairement dire que ce soit pour garder les gens dans l'ignorance du phénomène des ovnis. Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Certaines observations d'ovnis peuvent dissimuler de la technologie militaire, des avions secrets, et donc les gens voient quelque chose passer dans le ciel, croient que c'est un ovni, mais ça peut être un avion espion nouvellement développé par les forces armées américaines. J'ai même évoqué la fameuse zone 51 qui est devenue une référence dans l'univers des ovnis. Et la zone 51, au-delà de tout le bagage ou tout le folklore associé aux ovnis, elle n'en demeure pas moins que c'est une base, l'une des bases les plus importantes aux États-Unis où on fait du développement dans le domaine de l'avionique pour la question des avions du futur. Au moment où on se parle, on est en train de nous concocter des avions de demain qui seront des avions militaires, bien sûr. On est en train de faire ça à l'ombre des hangars de la zone 51. Donc, c'est normal qu'on ne veuille pas, que les autorités ne veulent pas qu'on aille dans la zone 51 et que ce soit dissimulé, que ce soit secret, et il est possible que certains de ces appareils, lorsqu'ils sont en vol, parce que bien sûr on doit procéder à des vols d'essai, ben il peut arriver à l'occasion que des gens observent ces objets dans le ciel, soit parce qu'ils sont à proximité de la base, ils sont en Arizona ou au Nevada, donc dans des zones assez désertiques, qui sont parfois utilisées, mais je pense aussi au désert de Californie, où ce sont des zones qui sont souvent utilisées par les forces militaires pour faire les essais de leur prototype. Donc il peut y avoir des observations qui soient directement liées avec l'observation de prototypes militaires. Faut quand même rappeler que durant la période des années 50, 1950-1960, durant les grandes années de cette commission d'enquête qu'avait menée l'armée de l'air américaine sur la question des ovnis, qui s'appelait le projet Blue Book, si on se réfère à certaines données, près de 50% des observations dites non identifiées, en cas le projet Blue Book a terminé ses travaux en décembre 1969, les conclusions étaient publiées au début de 1970, et dans ces conclusions, l'armée de l'air américaine disait « Nous avons enquêté sur 12 618 observations. De ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées. Oui. » Et on devait apprendre par la suite qu'une bonne partie de ces observations, voire même jusqu'à près de 50% des observations dites non identifiées, avaient dans les faits été identifiées comme étant des vols d'essai d'avions espions. Dans les années 50 et les années 60, on avait développé principalement deux avions espions très importants, l'avion U-2 et l'avion le SR-71 Blackbird. Donc, ce sont des avions qui volaient très, très haut, très, très vite. Et il est possible que des gens les aient observés et aient signalé la présence de ces lumières ou de ces objets hauts dans le ciel qui volaient plus haut et plus vite qu'un avion. On les a signalés comme étant des ovnis. Donc, il est possible que, faut bien croire que les autorités militaires ne nous disent pas tout sur la question des ovnis parce que d'une part, ça pourrait dissimuler de l'armement militaire. Donc, on veut garder le secret là-dessus. Et il est possible qu'il y ait des secrets plus obscurs qu'on essaie de nous cacher. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça fait partie du folklore ufologique que de dire et de répéter « les autorités militaires nous cachent des choses sur les ovnis ».
C'est ça.
Et ça fait partie du folklore et c'est sûrement vrai. Hein? Je tiens bien à le préciser, c'est sûrement vrai. Encore il y a quelques jours, les autorités militaires, la US Navy, a avoué qu'elle avait, depuis 2017, on a beaucoup parlé à nouveau des ovnis. Hein? Ils sont revenus sur la sellette. Il y a eu toute cette enquête du Congrès, que le Congrès a demandé d'une part au département de la Défense et à la US Navy d'enquêter sur de récentes observations d'ovnis, principalement avec la publication en 2017 par le New York Times de trois vidéos filmées par des pilotes sur des F-18. Et ce sont les images de ce que le pilote voyait sur son écran. Donc, un objet qui a été ciblé par le radar de l'avion avec un verrouillage et on peut voir l'objet donc apparaître sur l'écran. Et donc, ces images ont beaucoup circulé. Au départ, il y a eu une négation de la part des autorités. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient. On ne confirme pas que ce sont des vraies images. Et puis, éventuellement, devant une espèce de demande publique, quand les gens voulaient de l'information, l'affaire a remonté, c'est allé jusqu'au Congrès. Et finalement, bon, les autorités, dans un premier temps, ont avoué, ont reconnu que les images vidéo qui circulaient étaient tout à fait authentiques. Elles avaient été filmées par des pilotes de la US Navy, et principalement lors de deux incidents particuliers. Un premier en 2004 au large de San Diego, en Californie, qu'on appelait l'incident du Nimitz. Et ensuite, d'une série d'observations d'OVNI qui se sont produites du côté est, là où, à peu près à la hauteur de la Floride, là aussi on était dans l'océan Atlantique à ce moment-là, et impliquant bien sûr des pilotes de la US Navy fin 2014, début 2015. Donc les autorités ont reconnu que ces images étaient tout à fait authentiques, que ces images avaient été classées comme étant des phénomènes aériens non identifiés. On a changé l'anagramme, hein, maintenant on ne veut plus parler d'OVNI, c'est un mot qui a été beaucoup trop stigmatisé. Donc on parle de UAP ou de phénomène de panne, phénomène aérien non identifié. Et tout ça pour te dire que il y a ces vidéos qui circulent beaucoup, qu'on nous montre à satiété, à nauséam, j'irais jusqu'à dire. Et là, voilà que cette semaine, des demandes du public, on dit oui, mais c'est beau, on a 3-4 vidéos noires et blancs en infrarouge qui circulent depuis 2017. L'armée, le département de la défense, la Navy reconnaissent qu'il n'y a eu plus d'incidents impliquant des phénomènes aériens non identifiés, hein, parce qu'ici, on se garde bien de donner une origine à ces phénomènes. On reconnaît qu'ils n'ont pas été identifiés, mais évidemment, ça laisse la porte ouverte. Hein? Ça va de ou bien c'est des prototypes qui viennent de la Chine, de la Russie ou d'une autre planète. Tu comprends? Donc, on ne ferme pas la porte à rien.
Parce que le phénomène est tellement fort que s'ils vont d'un petit faux pas linguistique, ils perdent le contrôle.
Voilà, tu as tout à fait compris. C'est sûr que de leur côté, les amateurs d'OVNI sur les réseaux sociaux, eux, font la promotion de l'hypothèse extraterrestre. Donc, ces phénomènes sont sûrement des engins extraterrestres, mais les autorités, elles, ne vont pas jusque-là. Mais elles ne ferment pas la porte. Mais elles ont quand même mis un bémol. Lors d'une audition au Congrès, là, en début d'année, les représentants de la US Navy comme du département de la Défense ont dit « C'est vrai qu'on a ces phénomènes aériens non identifiés, mais pour l'instant, on n'a absolument rien vu qui nous permet de croire que ces phénomènes ne sont pas d'origine terrestre. » Donc, sans fermer la porte définitivement à l'hypothèse extraterrestre, elles ont quand même mis un bémol, mais je comprends que les amateurs d'OVNI sont très excités. Et moi-même, je t'avouerai que je suis aussi excité par cette question-là. Ça fait quand même 45 ans que je suis la question des phénomènes d'OVNI. Même si avec les années, j'ai perdu foi dans l'hypothèse extraterrestre, le sujet des OVNI continue de m'intéresser. Et là où je voulais en venir, parce que là, j'ai pris un très long détour, mais c'est de dire qu'encore cette semaine, des gens demandaient à la US Navy, ben voilà, au département de la Défense, vous avez ces trois, quatre vidéos qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux depuis 2017. Vous semblez indiquer qu'il y a eu beaucoup plus d'incidents. Dans un rapport publié l'an dernier, le département de la Défense disait avoir au moins 144 rapports d'observation d'OVNI rapportés par des pilotes ou rapportés par des militaires et que sur ces 144 incidents, un seul avait pu être identifié. Donc, en laissant 143 un peu dans une zone grise. Et les autorités, cette semaine, ont reconnu qu'ils avaient plus de vidéos, mais que pour des raisons militaires, des raisons secrets d'État, ces observations, ces films n'allaient pas être rendus publics. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, tu comprends que les amateurs d'OVNI vont rapidement capitaliser là-dessus en disant « Ah, on ne nous dit pas tout » et quelque part, ils ont un peu raison. Mais entre « on nous dit pas tout » et de dire « on nous cache la preuve de visite extraterrestre », tu comprends qu'il y a un monde entre les deux.
Je me suis souvent obstinée avec un ex là-dessus. Écoute, on s'en va dans le rififi, Christian, mais tu vas comprendre. Parce qu'il y a une partie de... Il y a mentir et cacher la vérité de façon intentionnelle et ne pas savoir.
Oui, hein? Exact.
Il y a une ligne, il y a une très grosse nuance. Hein?
Ah oui, absolument. Donc, dans le cas présent, donc les amateurs d'OVNI ont raison de dire « on ne nous dit pas tout », mais interpréter ce « on ne nous dit pas tout » comme étant « on nous cache des preuves de visite extraterrestre », il y a un monde entre
ça
les deux.
Ça va être correct.
Voilà, donc on va, il y a loin de la coupe aux lèvres, mais je comprends l'enthousiasme. Et il y a quelques années, il y a 20 ans, je t'aurais dit que j'aurais été rapidement dans le clan de ceux qui auraient fait la promotion de « on nous cache la visite d'extraterrestres ». Je comprends ces gens-là, je suis capable de me mettre dans leur bottine, puis je peux comprendre l'enthousiasme. Mais tout ça pour te dire que c'est vrai que les autorités ne nous disent pas tout, pour X ou Y raison. Mais dans la communauté ufologique, là, l'ufologie, j'utilise souvent ce mot-là pour les gens qui nous écoutent, l'ufologie ou les ufologues, ce sont des gens qui se définissent comme étant des individus qui font l'étude des phénomènes OVNI. Et donc, l'ufologie, c'est l'étude des phénomènes OVNI, de l'acronyme UFO, hein, qui voulait dire OVNI en anglais, qu'on a un peu standardisé un peu partout à travers le monde. Donc, l'ufologie, même si c'est un peu une connotation anglophone, ça signifie l'étude des OVNI, et ceux qui la font se définissent comme les ufologues. Donc, cela étant dit, on a fait un peu de lexique ici. Donc, les amateurs d'OVNI, les ufologues, vont plus loin. C'est pas seulement qu'on nous cache la vérité. Il y aurait au sein des autorités une organisation dont le travail serait justement de dissimuler l'information sur les OVNI. Ces gens-là auraient déjà des agents qu'ils enverraient de temps à autre rencontrer des témoins pour les intimider, les forcer à taire leurs observations d'OVNI. Donc, tu vois, là, on va plus loin. Ce n'est plus seulement on nous cache quelque chose, mais on nous force à nous cacher quelque chose. Donc, une organisation dans au sein du Pentagone, au sein de la US Navy, mais même une organisation qui serait au-dessus de tout cela et qui, elle, aurait pour charge simplement de dissimuler à l'humanité la présence des extraterrestres. Donc, ça va loin. C'est très populaire dans le milieu des ovnis. Je mets entre guillemets extrémistes, hein. Il y en a qui sont un peu plus tempérés que ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très populaire. Et cette organisation, elle a un nom. Elle s'appelle, pour les amateurs d'OVNI, elle s'appelle MJ-12, ou Majestic 12, ou Magic 12, mais bon, c'est toujours un peu des diminutifs ou des acronymes, mais on va le définir comme étant le MJ-12. Et cette petite organisation, qui aurait infiltré, qui serait à l'intérieur du gouvernement et qui verrait à intimider les témoins pour dissimuler l'information. Cette organisation, elle est omniprésente également dans la série X-Files. Hein? Elle est représentée principalement, je ne sais pas si toi, tu as été t'as suivi la série X-Files, mais ceux qui nous écoutent, qui ont été des mordus de la série X-Files, le MJ-12 était toujours représenté un peu par l'homme à la cigarette. Donc, okay. Il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui était toujours représenté par un espèce d'homme qui fumait une cigarette, un agent qui sait tout sur tout, qui suivait au pas à pas ce que Mulder et Scully faisaient, qui dissimulait de l'information. Donc, l'homme qui sait tout sur tout, là, tu sais, lorsqu'il est question des ovnis. Et à quelques reprises, on voit qu'il appartient à une petite organisation, une société secrète qui voit au sein du gouvernement à cacher les phénomènes ovnis. Donc, comme je te l'ai mentionné, cette organisation pour les amateurs d'OVNI a un nom, MJ-12. Et d'où vient ce nom? Ben, tu vas voir qu'il vient compléter un peu ce que l'on a parlé la semaine dernière à propos de Paul Benevitz. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, je prends une minute pour résumer de quoi il était question. C'est l'histoire de Paul Benevitz, parce que lorsque l'on dit bon, les autorités nous cachent l'information sur les ovnis, ou l'information, on nous fait de la désinformation sur les ovnis. Et c'est vrai, à tout le monde, on a quelques épisodes où il est vrai que les autorités américaines, les autorités militaires, ont joué des rôles de désinformation. Et le cas le plus patent, c'est celui dont on a parlé la semaine dernière, et c'est pas une rumeur, hein, via la loi d'accès à l'information, on a pu obtenir les documents qui démontrent très clairement cette opération, hein, qu'on a appelée l'opération Paul Benevitz. Donc, on a les documents, là. Ici, on n'est pas dans la fantaisie, on n'est pas dans l'interprétation, on a les documents qui proviennent moyenne du département de la Défense. C'est ce qui s'est produit. 1980, ce type, Paul Benevitz, qui habite Albuquerque, sur les hauteurs d'Albuquerque, voit la base voisine militaire de qui est juste à côté, la base de Kirtland, et il observe au-dessus de la base de Kirtland et des installations atomiques qui sont pas très loin. Il est à Coyote Canyon. Il voit des lumières et il interprète ça. C'est un type qui est un physicien. Il est propriétaire d'une petite compagnie d'électronique et c'est un mordu des ovnis, mais il fait un peu dans l'extrême. Hein? Les mutilations d'animaux, c'est créé par des extraterrestres. Le gouvernement travaille de cheville avec les extraterrestres qui vivent dans des bases souterraines. Donc, on a un discours très extrémiste. Donc, ce Paul Benevitz observe ces phénomènes lumineux et il enregistre également des espèces de codes qui ressemblent un peu à du code Morse. Et il informe lui-même, on est à l'automne de 1980, il informe les autorités de la base de Kirtland en disant « j'ai observé ces trucs, j'ai enregistré des patentes, je pense que c'est des extraterrestres ». Et les autorités vont envoyer des agents, dont un type qui s'appelle Richard Doughty, ils vont l'envoyer chez lui, prendre sa déclaration. Et ce qu'ils vont vite se rendre compte, c'est qu'en réalité, Paul Benevitz ne ment pas. Il a vraiment vu des lumières voler au-dessus de la base de Kirtland. Il a réellement capté des espèces de codes Morse. Mais ce qu'il croit, lui, être des extraterrestres, ce sont des projets top secrets du département de la Défense. Donc, on veut essayer d'attirer l'attention de Paul Benevitz vers autre chose. Il suit de beaucoup trop près les activités de la base de Kirtland. Et c'est là, à ce moment-là, que les autorités militaires vont imaginer un scénario. Puisque Paul Benevitz croit à toutes sortes de fadaises à propos des ovnis, on va simplement l'aiguiller ailleurs.
C'est comme un combat de la désinformation avec la désinformation.
T'as tout à fait compris.
Donc, c'est le feu avec le feu, Christian.
Oui, c'est ce qu'on veut, c'est qu'on veut que Paul Benevitz cesse de regarder ce qui se passe à la base de Kirtland. Alors, on lui dit, Richard Doughty, principalement, va le voir et lui dit « Oui, on a pris ton témoignage, on vérifie ça. Oui, merci beaucoup de l'information, ça nous intéresse. » Et là, on va embarquer dans son jeu. Hein. On va dire à Paul Benevitz « Tu sais, quand tu nous parlais de base souterraine, ben, t'as tout à fait raison. » Et là, évidemment, on joue la carte de la confidentialité. On est chummy, donc je vais te faire une confidence. Quand tu me parles de base d'extraterrestres, c'est tout à fait vrai. On en a une dans notre radar, c'est la base à Dulce. On est au nord de l'État du Nouveau-Mexique, tout près de la frontière du Colorado. Une petite agglomération, là, une commune agricole pratiquement à Dulce. Et là, Richard Doughty dit à Benevitz, il y a une base souterraine de plusieurs étages qui est là, il y a des extraterrestres. Et là, tout ça se fait un peu comme dans la confidence. Mais on sait très bien que Paul Benevitz, dès que Richard Doughty et les autres militaires qui l'accompagnent auront quitté, la première chose qu'il va faire, il va appeler tous les autres ufologues du quartier pour le communiquer l'information. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, peu à peu, Paul Benevitz porte son attention vers la base de Dulce. Il en informe ses collègues, ses amis ufologues. Et tout le monde se met à s'intéresser à Dulce. Donc, la semaine dernière, je te faisais une blague en disant, j'essaie d'imaginer l'agriculteur ou le fermier, tu sais, qui va traire ses vaches un samedi matin, puis il voit plein de voitures cachées dans les environs, des gens avec des jumelles qui regardent de loin dans l'espoir de surprendre quelques extraterrestres. Le type de ces gens-là sont complètement marteaux.
Oui.
Et c'est un peu ce qui se passe. Donc, on porte l'intérêt. Et encore aujourd'hui, dans le domaine des ovnis, il y a plein d'amateurs d'ovnis qui vont jurer que la base de Dulce, elle existe vraiment, puis qu'il y a des extraterrestres. Il y a même des gens qui ont pris le train en marche. Il y en a même un dénommé Schneider, qui a dit « Ah oui, j'ai déjà été militaire, moi, dans cette base-là, puis il y a eu un combat entre les militaires et les extraterrestres. Il y a eu des morts, moi, j'ai survécu. » Bon, bref, des histoires un peu des fadaises. Mais néanmoins, l'opération militaire orchestrée par Richard Doughty a fonctionné. On a porté l'attention vers autre chose, et principalement vers la base de Dulce, et soudainement, la base de Kirtland est devenue sans intérêt pour les amateurs d'OVNI. Et c'est dans ce contexte-là que va arriver MJ-12. On est en décembre 1984. Et à ce moment-là, il y a des ufologues qui se sont réunis pour parler, faire un... Bon, il y a un type qui s'appelle William Moore, il y a un type qui s'appelle Stanton Friedman, donc ces deux personnages-là sont très connus du domaine des ovnis. Le William Moore en question, On le sait pas à ce moment-là, mais rappelle-toi, la semaine dernière, je te l'ai mentionné, il a fait partie de l'opération désinformation de Paul Benevitz. Donc, il avait écrit un livre sur les ovnis. Il avait été recruté par Richard Doty pour contaminer l'information. Donc, 1984, on retrouve toujours dans son rôle secret, ce Bill Moore. Il s'associe avec un amateur d'ovnis profondément embarqué dans toute cette mythologie ufologique qui s'appelle Stanton Friedman, qui est un physicien et qui vivait au Canada, d'ailleurs, qui est décédé il y a 2 ans, je crois, et qui vivait au Canada, qui vivait à Fredericton, au Canada. Et ces deux personnes-là ont l'intention de faire un documentaire sur l'affaire de Roswell, histoire d'un crash d'OVNI qui se serait produit dans le désert du Nouveau-Mexique en 1947. Ils vont s'associer avec un producteur peu connu, un type qui veut se lancer dans le documentaire qui s'appelle James Shandera. Et on décide donc de monter ensemble un scénario quelconque pour produire ce documentaire sur la question des ovnis. Et c'est à ce moment-là que le fameux James Shandera va recevoir chez lui, parce que bon, ça se parle dans le milieu des ovnis, là. Moore, Friedman, Shandera travaillent ensemble, ils forment un trio, ils veulent produire un documentaire sur les ovnis. Et voilà qu'en décembre 1984, James Shandera reçoit une enveloppe brune, anonyme, il l'ouvre. À l'intérieur, il y a une bobine de film. Bon, ça, une bobine de film, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemblait, là. Parce qu'il y a longtemps qu'on ne parle plus de film argentique, là, maintenant, avec les téléphones portables et tout ça. Mais bref, il reçoit une bobine de film, 35 mm, non développée. Donc, il prend la bobine, l'amène dans un laboratoire et on développe ça. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il s'agit sur la pellicule, il y a un mémoire d'une dizaine de pages, à peu près, comme si la personne avait photographié page par page le document. Et ce document-là s'appelle Opération Majestic 12. Et ce document-là, il aurait été apparemment préparé à la demande du président en 1952, du président Dwight Eisenhower. Et au moment de sa sortie, hein, Dwight Eisenhower a cédé le pouvoir là, en 1952. Oui, il a été remplacé par... Le document a été préparé par le président Harry Truman pour le président Dwight Eisenhower qui a été élu en 1952. Okay. Et ce document-là, c'est ce qui fait quand même une bonne différence, là. Donc, le document préparé à la demande d'Harry Truman décrit, hein, toujours sur ce document-là, là, sur ces pages photographiées, ce document-là décrit la mise en place d'une organisation portant le nom de MJ-12 ou Majestic 12. Pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 représentants, 12 individus qui ont été sélectionnés pour former ce groupement d'élite spécial dont le travail a été dans un premier temps de dissimuler l'information sur l'histoire du crash d'OVNI dans le désert de Roswell et dans un deuxième temps de dissimuler, donc d'aller plus loin, de contrôler toute information qui pourrait circuler sur la question des OVNI. Donc, c'est à peu près à quoi ressemble le document du Majestic 12. Donc, on a à peu près, quoi, 6 ou 7 pages qui forment le mémorandum. Et avec ça, il y a deux, trois documents annexes qui sont associés à ça. Donc, une fois développé, tu comprends, ce document-là va se mettre on a les photos, on tire des photocopies, le document se met à circuler. Et pour les amateurs d'OVNI, c'est la grande révélation. Ce que l'on croyait ou ce que l'on suspectait depuis des années, le voilà confirmé. Depuis la fin des années 40, le gouvernement américain, à la demande du président Harry Truman, ont créé une unité, une société secrète à l'intérieur du gouvernement américain. Et d'ailleurs, le document mentionne que MJ-12 ne rend compte qu'au président lui-même. Donc, il ne dépend ni du département de la défense, ni d'aucune autre entité militaire. Et que ce groupement-là, bien sûr, fait de la désinformation et dissimule, cache, autorise ou non la divulgation sur certaines informations sur les ovnis. Le document se met à circuler pour les amateurs d'ovnis, c'est le Saint Graal. Hein, c'est depuis des années, depuis même, je te dirais, des décennies qu'on imaginait un tel scénario et voilà que ces documents-là viennent confirmer ce que l'on imaginait toujours.
Aussi bien donné, tu sais, c'est découvert comme ça, là, comme, je sais pas, un trésor en plein milieu d'une forêt. Là, tu sais.
Ouais, et il faut quand même le dire, à ce moment-là, personne... Hein, à ce moment-là, William Moore, hein, Bill Moore, est considéré avec estime dans le milieu des ovnis. Il a écrit un livre sur les ovnis qu'il a co-signé avec un type qui s'appelle Charles Berlitz, même si en réalité Berlitz n'a pas signé une ligne du livre, là, comme je l'ai mentionné la semaine dernière. C'est un auteur très populaire, fait qu'on a mis son nom sur la couverture pour aider à la vente du livre, mais en fait le livre a été essentiellement écrit par William Moore sur le crash de Roswell. Et là, à ce moment-là, dans le milieu des ovnis, tout le monde perçoit William Moore comme étant un ufologue sérieux qui a écrit un livre sur l'affaire de Roswell. Tout le monde ignore à ce moment-là que le même William Moore a été recruté depuis 1980 par un type qui s'appelle Richard Doughty, qui est un agent spécial du département de l'armée de l'air et dont le travail est de, dans un premier temps, a été de tromper Paul Benevitz, mais qui probablement continue dans l'ombre à faire de la désinformation. Donc, ce document-là se met à circuler. Et puis, alors que les amateurs d'OVNI, eux, crient « voilà, on a trouvé le Saint Graal », on le savait, le gouvernement nous dissimule de l'information sur les OVNI. Inutile de dire que les spécialistes de la documentation, les archivistes qui connaissent bien la forme et l'écriture, de quelle manière les mémos étaient présentés à différentes périodes au sein du gouvernement américain, sont vite interpellés par ce document. Et très rapidement, on découvre qu'il y a des anomalies. Par exemple, la façon dont la date est écrite sur le document n'existait pas en 1947.
Okay.
Et n'existait pas en 1952. Le type de caractère à la dactylo, de la façon dont il a été écrit, ce type de dactylo n'existait pas à l'époque.
Mais c'est poussé, on est allé voir les modèles de dactylo.
Voilà. Et on va même aller plus loin que ça. On va même découvrir que la signature qui apparaît sur le document, donc la signature d'Harry Truman, qui confirme la mise en place de cette organisation, on va retrouver la lettre d'où la signature a été empruntée. Hein. En 1947, il y a eu des échanges de correspondance entre le président Harry Truman et son conseiller scientifique qui s'appelait Vannevar Bush. Et on va découvrir que lors de ces échanges, ben, évidemment, Truman signait ses lettres. Ben, la signature qui apparaît sur le document du MJ-12 est une signature qui provient d'une lettre que Truman a envoyée à Vannevar Bush. Donc, avec un petit peu d'imagination, beaucoup de liquid paper et des photocopies, on a réussi à créer ce faux document en lui donnant un aspect plus ou moins vraisemblable. Et là, évidemment, quand les archivistes ont dit ce document-là est un faux, évidemment, tu comprends qu'il y a eu une levée de bouclier des amateurs d'OVNI. Non, 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 c'est pas un faux, il est vrai. On a même donné, il y a même une organisation à l'époque qui s'appelait le Fund for UFO Research, donc une petite organisation qui colligeait des fonds et puis finançait certaines recherches sur les OVNI. On a même donné $16,000 à Stanton Friedman pour qu'il enquête à son tour, refasse, si on peut dire, le même travail qui avait été fait par les archivistes. Donc, Friedman a fait ses recherches, et là, tu comprends, il a trouvé une lettre où la date était écrite un peu comme sur le document du MJ-12. Il a trouvé un autre élément, une façon dont le paragraphe avait été fait en 1947, un peu comme le MJ-12. Ce sont des anomalies. Mais retrouver toutes ces anomalies sur un même document de 5 pages, c'est pas possible. Tu comprends? C'est comme, bon, si tu te mets, que tu fasses une faute d'orthographe une fois dans ton nom, ça peut aller, mais si tu fais une faute d'orthographe à toutes les fois dans ton nom, c'est ou bien tu sais pas les plis ou il y a quelque chose qui va pas.
Quelqu'un dirait, Christian, il y a jamais de faute dans un nom, mais là, ouais, là, ça peut pas s'appliquer.
Voilà. Donc, tu comprends un peu le principe. C'est-à-dire que, ben oui, il y aura toujours, tu vas toujours trouver une anomalie, une virgule qui a pas été mise au bon endroit, tout ça. Je veux dire, tu vas trouver ça, mais qu'on retrouve toutes ces anomalies dans un seul et unique document, c'est impossible. Ça peut pas être authentique. Mais là, évidemment, pour les amateurs d'OVNI, on essaie encore une fois, puisque ce sont des archivistes, les archivistes des archives nationales à Washington, pour les amateurs d'OVNI, c'est souvent le monde est contre nous. C'est pas rien que le gouvernement qui est contre nous. Toute expertise qui va pas dans notre sens est contre nous. Donc, si les archivistes du qui sont des employés, là, ils disent ce document-là est faux, ben évidemment, ils doivent être payés quelque part, soudoyés par peut-être le MJ12 lui-même pour discréditer l'existence
ou le gouvernement direct. Là,
oui, c'est ça. Donc, tu as toute cette situation. Mais les documents sont faux et c'est amusant parce que depuis donc là, le document du MJ12, les documents, ce fameux mémorandum est sorti et par la suite, d'autres amateurs d'OVNI, des noms importants, là, je pense par exemple un type qui s'appelle Don Berliner, a reçu lui aussi par la poste un document anonyme, MJ12, hein, c'est devenu le mot MJ12, et le document que lui a reçu est une espèce de petit livre qui est un peu le mode d'emploi d'MJ12. C'est si tu es un agent du MJ12, voici ton code de déontologie, voici ce que tu dois faire, okay, etc. Et tu vois un peu le genre. Et puis, encore une fois, des amateurs d'OVNI ont dit « Ah oui, ce document-là est authentique. » Mais tout ça va... ce qui est assez amusant, c'est que tout ça fonctionne assez bien. On est dans les années 80, on même les années 90, mais là, tout à coup... Ben, des types comme Bill Moore, William Moore ou encore Richard Doty vont sortir de l'ombre parce qu'il y a des demandes d'accès à l'information et ces documents, l'accès de ces documents-là nous permet peu à peu de découvrir que dans l'ombre, pour différentes raisons, militaires, secrètes, peu importe, des agents du gouvernement comme Richard Doty ont été engagés pour tromper certains amateurs d'OVNI qui, visiblement, regardaient de trop près des activités militaires et ça dérangeait quelque part.
Et là, ça paraît moins bien une fois que c'est sorti dans les journaux. Ça fait pas des beaux titres.
Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, et c'est toujours ce qui va me fasciner avec cet univers des OVNI, à partir du moment où Richard Doty, à partir du moment où William Moore, lorsque les documents commencent à circuler, les documents obtenus via la loi de l'accès à l'information, qui montrent à quel point ces gens-là ont brouillé les cartes, et quand on sait que ces documents-là du MJ12 sont passés par les mains de William Moore, tout ça... Puis là, ben, ces gens-là admettent, oui, c'est vrai, on a fait des faux documents, on a trompé la communauté ufologique parce que, visiblement, il y avait des ufologues qui s'intéressaient de trop près à tel ou tel programme qui concernait des secrets défense, puis bon. Et malgré l'aveu, tu dis, bon, ben, OK, maintenant que t'as l'aveu, c'est... Non, dans le milieu des ovnis, on est comme imperméable à ça. On continue aujourd'hui de s'échanger les documents du MJ12, même si les spécialistes des documents des agences fédérales, incluant les archivistes des archives nationales, incluant également le FBI. Si tu demandes via la loi d'accès à l'information au FBI une copie du document du MJ12 qu'ils ont en archive, parce qu'ils l'ont enquêté, parce qu'aux États-Unis, et comme au Canada d'ailleurs, c'est illégal de fabriquer des documents en faisant croire qu'ils sont authentiques.
C'est de la falsification.
C'est de la falsification de documents gouvernementaux. Donc, tu comprends, quand les documents du MJ12 ont commencé à circuler, éventuellement, ils se sont retrouvés entre les mains d'agents du FBI qui ont enquêté là-dessus. Si tu demandes aujourd'hui au FBI une copie du MJ12, tu vas recevoir leur analyse du document dans lequel ils disent ces documents-là sont frauduleux, pourquoi ils sont frauduleux, et en gros, avec un gros stylo feutre, quelqu'un a écrit sur les documents « bogus », B-O-G-U-S, qui veut dire « falsifié ». Donc, toutes les autorités fédérales qui se sont penchées là-dessus, l'FBI à l'époque, les archives nationales ont conclu que les documents étaient faux, et depuis, William Moore et Richard Doty ont avoué qu'ils avaient effectivement, dans les années 80, fabriqué plein de faux documents pour un peu brouiller les cartes et envoyer les ufologues sur des voies de garage. Et comme ces gens-là sont associés de près ou de loin aux documents du MJ12, ben, tu conclus que ça fait partie de la mystification. Et je suis toujours surpris de voir qu'encore aujourd'hui, malgré ces aveux, malgré ces enquêtes menées, qui montrent très clairement que ces documents sont frauduleux, il y a peut-être, ça n'exclut pas qu'il puisse exister une société secrète au sein du gouvernement américain qui cache l'information sur les ovnis. Mais une chose est sûre, les documents, tout ce qui porte la mention Majestic 12, MJ12, c'est un truc qui a été inventé de toutes pièces par Richard Doty, qui a été inventé de toutes pièces par William Moore. On a des documents déclassifiés qui montrent les opérations dans lesquelles ces gens-là ont été impliqués, justement, pour tromper la communauté ufologique.
Mais je sens qu'il y a un mais dans ta phrase.
Non, non, il n'y en a pas. C'est tout simplement ça. Et on continue de, les amateurs d'OVNI continuent de capitaliser là-dessus.
C'est ça,
on utilise.
Voilà. Il est là le mais ouais, on mais, continue de dire
mais
que
on
ça
continue.
Existe.
Tu sais, moi, je veux dire, et j'essaie de rester l'esprit ouvert. Je me dis, bon, comme je l'ai expliqué en d'entrée de jeu, il est bien possible que les autorités nous dissimulent de l'information, soit pour cacher des programmes militaires ou peut-être nous cacher des choses plus sordides, peut-être même une présence d'extraterrestres. Mais une chose est claire. Devant l'accumulation de documents et d'expertises faits par des gens qui n'étaient pas impliqués dans l'univers des ovnis, des gens qui étaient tout à fait en dehors de cet univers-là, qui ont rien à gagner, rien à perdre à faire une investigation, à mener une enquête là-dessus, tout pointe dans la direction que ces documents sont falsifiés, qu'il n'y a pas d'MJ-12, il n'y a jamais eu d'MJ-12. Tout ça est une invention. Et pourtant, les amateurs d'ovnis restent imperméables à ces enquêtes. Et c'est ce qui nous amène finalement à se poser parfois la question... Quand les ufologues nous disent les autorités nous cachent l'information, les autorités dissimulent la preuve de visite extraterrestre, ou tel document n'est pas intéressant, ou ce document-là a été contrôlé ou manipulé, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que vraiment les ufologues veulent la vérité ou est-ce que les ufologues veulent la vérité qui fait leur affaire?
Avoir raison.
Tu sais, tu comprends, c'est ça. Donc, ils veulent avoir raison. Donc, finalement, tout document peu importe l'investigation qui sera menée actuellement, on le sait, j'ai commencé avec ça en parlant de cet intérêt soudain, en fait depuis 2017 pour la question des ovnis qui ramène le sujet sur le devant de la scène. Il y a des investigations qui sont faites, puis on demande au département de la défense, à la US Navy d'enquêter là-dessus. Si dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, ces autorités, ces organisations arrivent à la conclusion que oui, il y a des phénomènes aériens non identifiés, mais qu'il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans, ben j'entends déjà les ufologues qui vont dire ce rapport-là est pourri parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas vrai, et la véritable raison, c'est parce que le rapport ne va pas dans le sens que eux voudraient. Donc, c'est pas, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on veut la vérité. Ce que l'on veut, c'est un rapport, un document qui nous dit les extraterrestres existent et ils sont là.
Mais on n'est pas encore là. On n'est pas encore là.
Alors, tant ou si longtemps qu'on n'aura pas ce document-là, bien évidemment, les amateurs d'OVNI ne seront jamais satisfaits puisque c'est leur attente. Mais une chose est sûre, si vous lisez des ouvrages sur les OVNI, vous entendez parler de ces histoires de MJ-12, Magic 12, ça, faut l'avouer, faut le dire, c'est une fraude qui a été orchestrée par 2 hommes en particulier, Richard Doughty et William Moore. Donc, ça, c'est un... Je pense que l'affaire est morte de sa belle mort, même si les ufologues essaient encore de capitaliser là-dessus et faire encore du millage sur cette histoire qui est depuis un certain temps quand même obsolète depuis la révélation des documents via la loi d'accès à l'information.
Est-ce que c'est un peu de ça que parlent les livres et films dont tu voulais nous présenter, le Mirage Man?
Oui, en fait, c'est ça. Donc, il y a un ouvrage qui a été écrit qui s'appelle Mirage Man, qui a été écrit par Mark, j'ai le bouquin entre les mains, Mark Pilkington. Okay. Et ensuite de ça, on a fait un documentaire qui s'appelle Mirage Man, et dans lequel, ça dit des hommes de mirage, et dans lequel Richard Doughty explique, dans l'ouvrage raconte un peu ce dont on a parlé la semaine dernière et cette semaine.
D'accord.
Donc, le rôle que certaines autorités, certains agents au sein du gouvernement, principalement du département de la Défense et de l'US Air Force, ont joué pour brouiller les cartes avec la question des ovnis. Et ensuite, Mark Pilkington a fait un documentaire qui s'appelle Mirage Man, et dans lequel on voit justement Richard Doughty qui explique tout un peu l'organisation derrière ça. Et c'est assez amusant parce que t'sais, on se dit que ce type-là est un menteur professionnel. Donc, au fur et à mesure où il parle, tu te poses tout le temps la question. J'ai un moment, là, je pense, par exemple, dans Mirage Man, il dit ouais, les documents, là, on a trompé Paul Benevitz, on a fait des faux documents, etc. Il raconte tout ça. Et puis là, tout d'un coup, le sourire en coin, il nous dit mais j'ai déjà vu un vrai film où on voyait vraiment des extraterrestres. Tu sais, tu comprends.
Avoir un polygraphe au bras, ça aurait fait...
Oui, c'est ça. Donc, tu te dis, bon, OK, il nous raconte des histoires que l'on sait être vraies parce qu'on a les documents via la loi d'accès à l'information, mais il en rajoute en disant, ouais, mais quand on a caché l'information, c'est... Parce qu'il y avait vraiment des soucoupes volantes qu'on avait dans un hangar, puis on voulait le cacher. T'sais, donc, tu te dis, il joue sur tous les tableaux. C'est vraiment croustillant à voir. Donc, Mirage Man, à la fois le livre et à la fois le documentaire qui nous montre un peu de quelle façon on peut facilement tromper une communauté qui est prêt à fermer les yeux sur beaucoup de choses et beaucoup d'anomalies quand il s'agit de confirmer ses croyances.
On va écouter la bande-annonce avant de faire une toute petite pause et au retour, on a le temps pour une actualité de la semaine. En fait, il y a eu une mise à jour dans la dernière demi-heure. C'est mission accomplie, pourquoi? On vous en parle au retour de la pause.
Parfait.
At the core, there is something that they want to keep people away from, a real truth.
Back in the early 80s, it was my job to confuse the UFO community. And it was very easy to convince Paul. Paul was a World War II veteran. He's very patriotic. He always flew his flag. Those type of people you can convince that, listen, you can't tell anybody else about this because it's, you know, you're getting in the wrong hands.
Would we use perception to help shroud what we're trying to protect? Absolutely. If you've got an aerial platform that is highly advanced and the public who happens to get a glimpse of the thing, if they're convinced that it's from Venus, then there's no way it could be our military. Well, hey, you know, that's awesome. Hell yes.
We're really a byproduct of extraterrestrial intervention.
Doty had this wonderful way to sell it. I'm with the government. You cooperate with us, and I'm going to tell you what the government really knows about UFOs deep down in those vaults. I'm going to tell you all kinds of lies. Let's take one step at a time. You're looking at Richard Doty, the professional disinformer, trained to lie.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
19h48, alors qu'on commençait l'émission tout à l'heure, on avait la notification provenant directement là, de, je sais pas si c'est la Station spatiale internationale ou encore la NASA directement, Christian, mais la mission DART est réussie. La sonde DART de la NASA s'est écrasée sur l'astéroïde. C'est Dimorphos, c'est ça que...
Dimorphos, exact.
Dimorphos, exactement, dans le but de le dévier, c'est réussi. Donc, on se sauve d'un destin. J'ai entendu l'astronome dans l'émission avant nous parler de la fin des dinosaures. Eh bien, ce ne sera pas la fin des humains aujourd'hui. Ouais.
Mais en fait, il faut quand même le dire, hein, Dimorphos ne présentait pas une menace pour la Terre.
Okay.
On n'a pas détourné. L'idée n'est pas de détourner Dimorphos parce qu'il représente un danger. Mais il est vrai, tu l'as mentionné, la menace qu'un gros astéroïde, et dans le cas de Dimorphos, par exemple, pour donner une idée là, aux gens de Québec, c'est un gros rocher là, qui est à peu près gros comme le centre Vidéotron. Donc, tu vois un peu la grosseur du rocher. Oui, c'est une grosse roche, là. Et donc, la menace éventuelle, on appelle ça un astro-croiseur. Donc, l'idée qu'un astro-croiseur, une grosse météorite, puisse tomber sur Terre, ce danger-là, il est toujours possible.
Connais-tu la fréquence un peu de cette possibilité-là? Est-ce que ça arrive une fois aux 6 mois, une fois par année? Ou...
Non, heureusement non, pour
écoute,
nous...
Écoute, si je te sors de tes bottines, ouais. Dis-moi là.
Non, mais heureusement pour nous, ça n'arrive pas aussi fréquemment que ça, parce que chaque année, la Terre reçoit des tonnes de roches en provenance de l'espace. Heureusement pour nous, ces roches sont détruites dans l'atmosphère terrestre. Les plus gros rochers, les plus gros météores vont se rendre jusqu'au sol, ça devient une météorite, mais généralement, ce sont des petits cailloux qui arrivent jusque sur le sol. De temps en temps, je te dirais, une fois toutes les 10 ans à peu près, on a des plus gros rochers qui tombent, mais encore là, ça reste des rochers. Là. Ça peut être gros comme, mettons, une roue de voiture à peu près. Là.
Okay.
Mais des gros rochers comme les, par exemple, Dimorphos ou le rocher qui a fait disparaître les dinosaures, ben on a été chanceux jusqu'à maintenant. On en a un toutes les à peu près 50 millions d'années. Donc, on n'est pas si mal. Il y a celui, il y a 66 millions d'années qui a entraîné la disparition des dinosaures. Il y a un gros rocher qui, au début du 20e siècle, c'était en 1906 ou 1908, là, je me mêle un peu sur la date, mais bref, un de ces gros rochers qui a frappé, qui heureusement est tombé dans le Tunguska sibérien, donc on est en Russie, dans une région qui était quasi inhabitée. On a senti l'onde de choc qui a fait deux fois le tour de la Terre, et sur une distance d'à peu près 300 km autour du point d'impact, tous les arbres ont été couchés. Ça nous montre l'importance de la force d'impact. Si un gros rocher comme celui-là était tombé près de la côte, par exemple, aux États-Unis, ben il aurait entraîné évidemment des tsunamis dévastateurs. Ouais. Ou s'il serait tombé sur une grosse ville comme New York, ben il aurait rayé la ville de la map, là. Donc heureusement, des rochers, des menaces comme celle-là, jusqu'à maintenant, on était chanceux, on y a échappé. Le plus gros et le plus catastrophique, bien sûr, c'est celui qui a entraîné la disparition des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, mais quand on regarde à la surface de la Terre, on peut voir de ces zones d'impact qui ont dû être très importantes, notamment en Australie, il y a un gigantesque cratère, il y en a un énorme aussi en Arizona. Donc, ce sont des zones de points d'impact de météorites qui entraîneraient peut-être pas forcément une disparition complète d'une espèce, comme ça a été le cas avec les dinosaures, mais dont les dommages seraient considérables. Ils pourraient facilement rayer une nation complète. Un météorite d'une telle ampleur qui frapperait les États-Unis, ça serait catastrophique. Les morts se compteraient par dizaines, sinon centaines de millions. Donc, c'est très important. Et ce que l'on... Avec l'avènement des technologies, comme le risque est toujours possible, on s'est dit, ben, pourquoi ne pas essayer de mettre au point un système qui nous permettrait d'éloigner une météorite advenant que ce scénario se produirait. Et donc, on a envoyé la sonde DART, on l'a envoyé vers Dimorphos. Bon, Dimorphos, c'est une grosse roche qui tourne autour d'une plus grosse roche qui s'appelle Didymos. Donc okay. Là, on a comme deux rochers qui l'un tourne autour de l'autre. Et ces rochers-là sont quand même à 11 millions de kilomètres de la Terre. Fait que c'est quand même un petit bout. On a envoyé, donc le lancement de la mission DART était le 24 novembre 2021, donc un an pratiquement plus tard, la sonde qui est composée de deux mécanismes, une petite sonde qui va servir de caméra, qui va observer, hein, c'est un orbiteur qui s'appelle Lucia Cube qui s'est détaché de la sonde, c'est une caméra finalement, qui elle va nous envoyer de l'information pour voir, parce que lorsqu'on a envoyé DART, la plus grosse partie du vaisseau, lorsque DART s'est lancé vers Dimorphos, lorsqu'il l'a frappé, bien évidemment, il a envoyé des images jusqu'au point d'impact, mais à partir du moment où il y a eu le point d'impact, c'est bang. Oui. Maintenant, il faut savoir si ça a eu l'effet escompté. Est-ce qu'on va avoir légèrement, parce que l'idée n'est pas de briser cette symbiose qu'il y a entre Dimorphos et Didymos, mais plutôt de changer un peu l'orbite de Dimorphos. Et l'impact, bon, suppose qu'il va permettre de changer légèrement cette orbite. Ici, on démontre qu'il y a eu ce changement d'orbite. Ben, à ce moment-là, on aura la preuve que l'impact a été suffisant pour détourner pour changer l'orbite de ce gros rocher. Et on peut extrapoler que si éventuellement la Terre était menacée par un rocher de cette dimension, bon, on pourrait également, par des mécanismes semblables, le détourner. Donc, maintenant que la sonde DART a frappé Dimorphos, Lucia Cube, elle, qui est cette caméra, elle est dans cette orbite-là. Elle suit la trajectoire, le mouvement de la trajectoire, et elle va envoyer des informations vers la Terre qui va nous renseigner au fil des semaines pour voir si effectivement l'orbite de Dimorphos a été légèrement altérée. Et il n'y en faut pas beaucoup, hein. Une très légère variation là, d'un degré ou deux serait suffisant pour, dans l'éventualité où une météorite ferait route vers la Terre, on pourrait la détourner de la même façon. Donc, c'est un exploit extraordinaire. Hein? La sonde a frappé à la vitesse de 160... Le Dimorphos, c'est un gros rocher, comme je t'ai dit, de 160 mètres de diamètre. Le gros, peut-être comme le centre Vidéotron. Et l'impact a eu lieu à 20 000 km heure. Donc, ça a dû frapper fort.
Et quelqu'un nous pose la question par texto, qu'on fasse tous des cauchemars. Est-ce que ça peut créer une réaction à la chaîne?
En théorie, non. C'est justement, ouais, parce qu'on se dit ça, tout le monde, tu le frappes, puis là, tout d'un coup, le rocher se déplace, va frapper l'autre,
c'est il brise. C'est un
effet domino. Mais en théorie, non, parce que l'impact, selon les experts de la NASA, ça ne brisera pas cette symbiose qu'il y a entre Dimorphos et Didymos. Hein. C'est vraiment simplement de changer un peu son orbite de quelques mètres à peine. Hein. Autrement dit, le Dimorphos va continuer à tourner autour de Didymos, mais il va tourner, mettons, 3 mètres plus loin. T'sais, donc, on va simplement avoir bougé un peu son orbite. Mais encore une fois, ça reste suffisant pour être prometteur dans l'éventualité où la Terre serait menacée par un astro-croiseur de cette dimension-là.
J'ai sonné fataliste un petit peu tantôt là, avec la fin de l'espèce humaine. Je viens quand même d'une région qui a été aussi frappée par une météorite. Là.
Okay.
Charlevoix. On est pas mal dans un cratère. Fait que ça aurait pas été si pire que ça.
Donc, heureusement, depuis que la Terre s'est formée, des impacts de grandes météorites géantes, depuis que la vie existe sur Terre, on n'en a pas eu qui ont créé des extinctions majeures, comme ce fut le cas il y a 66 millions d'années avec les dinosaures. Et cette grosse météorite est tombée dans ce qui forme aujourd'hui, où se trouve aujourd'hui la péninsule du Yucatan, là, au Mexique. Là, donc, c'est tombé dans l'océan Atlantique, mais dans la mer des Caraïbes à cet endroit. Voilà.
Bon, mais merci, Christian, de nous faire dormir sur nos deux oreilles. On se dit à demain là-dessus. Je sais que tu voulais parler absolument. Je pense qu'on va commencer avec ça demain.
OK. Les aveux. Une révélation de Steve Pearce qui va avoir un impact important sur le milieu des ovnis. Donc, on s'en reparle demain en début d'émission.
Excellent. Bonne fin de soirée à toi et aux auditeurs.
Ça marche. Ciao.
Bye-bye.